6h40 sur France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Anne-Laure Chouin, bonjour à toutes et à tous.
Dans votre journal des idées ce matin, des syndicats de médecins alertent sur les insultes et les menaces reçues par leurs adhérents de la part des milieux anti-vaccins et complotistes les plus radicaux.
Oui, on a le droit de douter, bien sûr, Anne-Laure, mais la brutalisation du débat qui se développe à ce sujet, comme à d'autres, ne fait qu'ajouter à la confusion générale, d'autant plus que les médecins eux-mêmes ont une parole très prudente, souligne Jacques Battistoni, président du syndicat MG France. Philosophie Magazine publie opportunément un dossier plaidant pour l'art de la nuance. Alexandre Lacroix souligne qu'il s'agit d'un pari sur la nature même du réel. La couleur du monde se présente comme un subtil dégradé, écrit-il, et il cite Héraclite, il faut éteindre la démesure plus encore que l'incendie. Nicolas Castino évoque les travaux de la chercheuse américaine Whitney Phillips sur la haine en ligne, qui paie beaucoup plus que la mesure ou la nuance, et ce, à tous les sens du mot payer. En termes d'économie de l'attention, les contenus ayant une charge émotionnelle forte suscitent les réactions et multiplient les interactions. Ils sont donc privilégiés par les plateformes, une logique qui n'a pas tardé à contaminer les grands médias mainstream où faire le buzz est toujours plus rentable qu'examiner posément un problème. Et sur le web, les conséquences éthiques de nos actes en ligne sont obscures. Emmanuel Lévinas avait fait du visage le lieu du surgissement de l'éthique, un caractère d'évidence qu'illustre à contrario l'expression « perdre la face ». Et c'est dans le face-à-face que s'impose le respect à l'égard de l'humanité de l'autre. Sur Internet, le visage n'est qu'une parodie, la face figée de notre photo de profil. Dans la dernière livraison de la revue Commentaire, Pierre Manant analyse en finesse et nuance la récente encyclique Fratelli Tutti du pape François sur la fraternité et l'amitié sociale, où la parabole du bon samaritain a une place d'honneur. À propos du prêtre et du lévite qui passent leur chemin sans porter secours aux malheureux détroussés, roués de coups par des brigands, le pape souligne que ces personnes occupant des fonctions importantes dans la société n'avaient pas dans leur cœur l'amour du bien commun. Or, précise Pierre Manant, en citant les textes, le Lévitique et les Nombres, ces deux hommes de foi étaient tenus par la loi de pureté qui proscrit de toucher un cadavre ou quelqu'un à demi-mort. De la figure du Samaritain, le pape esquisse de même une interprétation moderne de nature à inspirer nos contemporains, je cite, « Il s'est arrêté, il lui a fait don de la proximité, a personnellement pris soin de lui, a également payé de sa poche. Surtout, il a donné quelque chose que dans ce monde angoissé, nous thésaurisons tant, il lui a donné son temps. » Mais, remarque le philosophe, le Samaritain a une ampleur dans les gestes, une liberté dans la démarche, une compétence dans le soin à toute blessure, une autorité dans la parole qui ne sont pas d'un homme. Les pères de l'Église ne s'y trompèrent pas, le Samaritain n'est autre que Jésus lui-même. La parabole ne nous invite pas seulement à nous identifier à l'autre, mais à reconnaître et cultiver notre dimension spirituelle. Elle nous enseigne d'abord que nous n'avons ni la charité, ni la force, ni la vertu réparatrice, ni la patience, ni l'espérance pour être comme le Samaritain, et à la fois que nous devons nous faire les prochains les uns des autres et que nous ne le pouvons pas si nous comptons sur nos propres forces, si nous nous contentons d'être des humanistes. Car, ajoute Pierre Manant, la compassion simplement humaine est un sentiment qui, comme tel, n'est pas susceptible d'être qualifié moralement. Laissée à elle-même, la compassion pour la victime se convertit aisément en compassion pour le bourreau. Elle ne devient éthique que si elle est guidée par ses vertus, que sont le courage, la justice et la prudence. Dans sa chronique de l'Avent, publiée par La Croix l'Hebdo, Frédéric Boyer évoque l'épreuve du don. La demande d'autrui en souffrance ne nous conforte pas tant dans la bonne conscience de la charité qu'elle ne nous renvoie à notre propre vulnérabilité. Elle nous convoque à l'ensemble vide que nous formons les uns avec les autres, au sens mathématique du terme, je cite, un ensemble vide ne contient rien, mais comme c'est un ensemble, il n'est pas rien. Ce que l'on donne en donnant n'est pas ce que nous possédons, mais précisément ce que nous n'avons pas. Ce rien qui n'est pas rien, puisque nous sommes ensemble, ce vide entre nous que le don transforme en événement, en rencontre.